La statue abattue.
Dans l'obscurité de Montfaucon où les chaînes grinçaient, des voleurs, la nuit suivante, dépendirent le mort illustre pour le dépouiller. Au matin, on trouva le corps de Marigny couché nu sur la pierre. Monseigneur de Valois, qui était encore au lit quand on l'en vint avertir, commanda de rhabiller le cadavre et de le rependre. Puis lui-même se vêtit, et bien vivant, mieux vivant que jamais, tout gonflé de sa force intacte, il partit se mêler au mouvement de la ville, au trafic des hommes, à la puissance des rois. En compagnie du chanoine de Mornay, son ancien chancelier qu'il avait fait nommer garde des Sceaux de France, il gagna le palais de la cité. Dans la galerie Mercière, marchands et badauds observaient quatre ouvriers maçons perchés sur un échafaudage et qui descellaient la grande statue d'Enguerrand de Marigny. Elle tenait à la muraille non seulement par le socle, mais par le dos. Les pics et les burins frappaient la pierre qui volait en éclats blancs. Une fenêtre intérieure qui donnait vue sur l'ensemble de la galerie s'ouvrit. Valois et le chancelier apparurent à la balustrade. Les badauds, apercevant leur nouveau maître, ôtèrent leurs bonnets. « Continuez, bonnes gens, continuez à regarder, c'est bon travail que l'on fait là !» lança Valois en adressant à la petite foule un geste engageant. Puis, se tournant vers Mornay, il lui demanda « Avez-vous achevé l'inventaire des biens de Marigny ?»«
J'ai achevé, monseigneur, et le comte en est assez gras. »«
Je n'en doute point, » dit Valois. « Ainsi le roi va se trouver en fond pour récompenser ceux qui l'ont servi en cette affaire, » dit Valois. « Tout d'abord, j'exige retour de ma terre de Gaillefontaine, » que le coquin m'avait prise par du prix dans un mauvais échange. Cela n'est point récompense, c'est justice. D'autre part, il conviendrait que mon fils Philippe disposât enfin d'un hôtel en propre et qu'il eût son train personnel. Marigny possédait deux maisons, celle des Fossés Saint-Germain et celle de la rue d'Autriche.
J'incline pour la seconde.
Je sais aussi que le roi veut faire quelques libéralités à Henriet de Meudon, son veneur, qui lui ouvre ses paniers à Colombes. Notez donc ce désir.
Ah! Surtout, n'oubliez pas que Monseigneur d'Artois attend depuis 5 ans les revenus de son comté de Beaumont. C'est l'occasion de lui en remettre une part. Le roi a de grandes dettes envers notre cousin d'Artois.
Le roi va devoir aussi, dit le chancelier, offrir à sa nouvelle épouse les présents d'usage, et il semble décider, dans l'amour qu'il a, aux plus grandes largesses. Or, sa cassette n'est guère en état d'y subvenir. Ne pourrait-on prendre sur les biens de Marigny les faveurs qui seront attribuées à notre nouvelle reine?
C'est sagement pensé, Mornay. Préparez un partage en ce sens, où vous placerez ma nièce de Hongrie en tête des bénéficiaires. Le roi ne pourra qu'y souscrire.
Valois, tout en parlant, continuait de regarder le travail des maçons.
Bien sûr, monseigneur, reprit le chancelier, je me garderai de rien demander pour moi-même.
Et en cela vous agirez bien, Mornay, car de méchants esprits auraient beau jeu de dire qu'en poursuivant Marigny, vous ne cherchiez que votre profit. Faites donc grossir un peu ma part afin que je vous puisse gratifier à proportion de vos mérites.
« Ah, elle a bougé !» ajouta Valois en pointant le doigt vers la statue.
La grande effigie de Marigny était maintenant complètement décollée du mur. On l'entourait de cordes. Valois posa sa main baguée sur le bras du chancelier.
« L'homme en vérité est créature étrange, » dit-il.
« Savez-vous que soudain j'éprouve comme un vide de l'âme ? J'avais si fort accoutumé de haïr ce méchant qu'il me semble à présent qu'il va me manquer. »
À l'intérieur du palais, Louis X, dans le même moment, achevait de se faire raser. Auprès de lui se trouvaient Dame Eudeline, rose et fraîche, tenant par la main une enfant de 10 ans, blonde, un peu maigre, intimidée, et qui ne savait pas que ce roi, dont on séchait le menton à l'aide de toiles chaudes, était son père. La première lingère du palais attendait, émue, pleine d'espoir, d'apprendre la raison pour laquelle Louis les avait mandés, elle et sa fille. Le barbier sortit, emportant bassin, rasoir et onguent. Le roi de France se leva, secoua ses longs cheveux autour de son col et dit
« Mon peuple est content, n'est-il pas vrai, Eudeline, que j'ai fait pendre Marigny ?»«
Certes, monseigneur, Louis. Sire, je veux dire. Chacun se plaît à croire que les temps du malheur sont finis. »«
c'est bien, je veux qu'il en soit ainsi. »
Louis X traversa la chambre, se pencha sur un miroir, étudia son visage quelques instants, se retourna.
« Je t'avais promis d'assurer l'établissement de cet enfant. Elle s'appelle Eudeline, comme toi. »
Des larmes d'émotion vinrent aux yeux de la lingère, et elle pressa légèrement l'épaule de sa fille. Eudeline la petite s'agenouilla pour entendre, de la bouche souveraine, l'annonce des bienfaits.
« Sire, cet enfant vous bénira jusqu'à son dernier jour, en ses prières. »
« C'est justement ce que j'ai décidé, » répondit le hutin.
« Quel prix !»
Elle entrera en religion au couvent de Saint-Marcel, qui est réservé aux filles nobles, où elle sera mieux que nulle part. »
La stupeur parut sur les traits d'Eudeline la mère.